1, 2, 1, 2, 3.
Peux-tu me faire une voix plus
claire? Good morning, Vietnam!
Are you drinking? No.
Tonight we present a very warm little story called Kill With Time.
J'ai l'impression qu'on a un intrus dans le studio. On laisse voir, on lui met un casque et il parle dans le micro.
Il suffit que tu fermes ta gueule. À toi, je te passerai mon test.
C'est cool, ça va arriver les voisins.
Bonjour à tous, vous êtes sur PFM 99.9 avec les Décadrés. Bonjour Antoine.
Salut.
Bonjour Benjamin.
Bonjour.
Il est temps de se réveiller mon petit gars.
Excuse-moi mais à mon avis c'est plus Antoine qui est fatigué aujourd'hui.
Ouais bien sûr.
Oui.
Bien, alors aujourd'hui pour notre émission nous allons commencer tout d'abord avec les news de...
Ben.
Bien, j'essaie de vous remettre en forme quand même les gars un peu parce que là ça commence à... assez mal, on va dire.
Tout en essayant de démarrer la musique.
Tout à fait. Non, ça, c'est pas vrai.
Ah, si. Alors, Archer, la série d'animation cinglée créée par Adam Reed et qui suit l'espion éponyme, donc qui est un gars misogyne, pervers, méchant, etc., arriva peut-être au cinéma. En effet, les producteurs du show ont déclaré que si la production d'un film serait lancée, ce serait après la fin de la série, donc la fin de la saison 7. Pour incarner l'agent Sterling Archer, l'un des producteurs a déclaré... C'est John Hamm. Si Archer doit avoir une adaptation live, donc c'est-à-dire en prise de vue réelle, c'est John Hamm. John Hamm, ça vous dit quelque chose? Eh bien, il a incarné le formidable personnage d'un rappeur dans la série géniale Mad Men. Vous avez aussi pu le voir dans The Town de Ben Affleck, dans le rôle du docteur dans Sucker Punch de Zack Snyder, ou encore dans la comédie romantique Mes meilleurs amis. Le nouveau projet de Shane Black a été annoncé en photo par l'interprète principal, donc l'acteur Dwayne Johnson, et le titre du film, Doc Savage. Johnson incarnera donc l'homme de bronze, Doc Savage, dans l'adaptation du Pulp Comics créé en 1930 par Henry Ralston et John Nanovic. Le film vient juste d'être annoncé, donc Shane Black est en pré-production sur The Predator, prochain film de la franchise culte qu'il réalise et qu'il a coécrit avec Fred Decker. A noter que Shane Black scénarise des armes fatales de Last Action Hero, aussi scénariste réel de Kiss Kiss Bang Bang ou encore Nice Guys, joué dans le premier film réalisé par McTiernan, donc Predator. Et oui, il jouait Hawkins, donc la première victime de l'alien tueur au Rasta.
Il va faire un buddy movie avec des Predators en fait.
Ouais, ce serait drôle. A noter que la série L'Arme Fatale s'est dévoilée dans un trailer et nous a laissé pantois. Et possiblement sur les rotules. Donc si Damon Wayans, le Michael Kyle de Ma Famille d'Abord, peut s'avérer convaincant en lieutenant Mortoff, on doute de Clayne Crawford en Riggs et de la réécriture du personnage. Bon, ça reste une affaire à suivre. Et enfin, on a appris que Ocean Eleven allait avoir droit à son remake reboot spin-off féminin. Alors comme le prochain Ghostbuster, le film est un spin-off, c'est-à-dire un film dont l'histoire se passe dans le même univers, mais un reboot car il s'agit de relancer la franchise et donc la machine Afrique, et un remake car il s'agit en fond de refaire Ocean Eleven, donc le braquage du film, avec des personnages qui ont leur propre spécificité, mais en version féminine.
Je te parie qu'ils vont prendre des nanas super bien gaulées.
Il y aura pour l'instant Kate Blanchett, Jennifer Lawrence et Sandra Bullock qui seraient annoncés.
Avec des tons quoi.
Non arrête, il faut aussi rappeler qu'Ocean Eleven de Soderbergh était lui aussi un remake. Une réécriture du Ocean's Eleven de 1960 de Mike Millstone avec Sinatra, Martin, Sammy Davis Jr., Peter Lawford entre autres. Et maintenant, donc les news c'est fini, on enchaîne avec Ange qui va nous parler.
Quelle transition,
de... j'adore. Ouais, j'adore aussi.
Avant que tu commences, je voudrais m'excuser auprès de Sandra Bullock, hein. Elle est vraiment pas moche, hein. C'était du sarcasme.
Oui, c'était très sarcastique. De...
Tu penses qu'elle nous écoute?
Non.
Non.
Alors, j'aurais quelque chose pour annoncer ta chronique, Ange. Élémentaire.
Donc rebonjour à tous, c'est moi, c'est Ange. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un film. Vous ne vous y attendiez pas. Hein. Bon, c'est bon, ok. Trêve de plaisanterie, un film donc, comme je le disais, qui m'a beaucoup plu, un film sur un personnage mondialement connu, que vous aurez certainement reconnu grâce à la fameuse blague de Benjamin.
Élémentaire.
Donc mondialement connu qui fut adapté. Oui, merci. Donc mondialement connu qui fut adapté en dessin animé, bande dessinée, film, série et même en petite souris. Je vous parle bien entendu de Sherlock Holmes, le fameux détective privé au regard perçant.
Élémentaire. Par Sir Conan Doyle.
Tout à fait. Bien sûr.
Élémentaire.
Donc alors non, je ne vais pas vous parler du film d'action avec Robert Downey Jr. qui, il faut le dire, campait bien son rôle, même s'il trouvait que son personnage était un homosexuel. Je ne mens pas, il l'a vraiment dit, même que la chargée des droits du film a refusé catégoriquement de continuer à travailler sur ce projet s'il continuait à dire ça. C'est une méchante. Non mais c'est vrai en plus, c'est un fait réel.
Pas très sympa. Pourtant c'est intéressant je trouve.
Bah oui, ça aurait pu être sympa, puis même la façon dont il le jouait, ça pouvait mener à penser qu'il était homosexuel, mais bon, elle a refusé totalement de continuer s'il continuait de dire ça. Donc voilà. Là, je vais vous parler en fait du film Monsieur Holmes, donc réalisé par Bill Condon. Pas de mauvaise blague, je vous prie les gars. Des Twilight 4 et 5, du Cinquième Pouvoir et du prochain La Belle et la Bête prévu pour 2017.
Comment
avec Emma Watson.
Comment tu ne veux pas que je fasse de blagues avec son nom et les Twilight dans sa
c'est filmographie. Pour ça que j'ai précisé tout de suite de ne pas faire de blagues. Donc merci de ne pas l'avoir fait. Donc, Monsieur Holmes, disais-je, avec le grand, l'illustre, le magnifique Sir Ian McKellen, que vous avez pu voir dans le rôle de Magneto dans X-Men, dans le rôle de Gandalf, dans Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, ou encore dans Le Roi Lear, Da Vinci Code et bien d'autres encore, je ne peux tous les citer, bien sûr. Donc, l'histoire, en 1947, Sherlock Holmes, depuis longtemps à la retraite, vit paisiblement dans le Sussex, avec sa gouvernante et son fils, un détective amateur. Mais la quiétude recherchée n'est que de façade, une affaire vieille de 50 ans le hante encore et toujours. Malheureusement, seuls quelques fragments sont encore vivaces, une altercation avec un époux en colère, un lien profond mais mystérieux avec son épouse fragile. Si son légendaire pouvoir de déduction n'est plus intact et si Watson n'est plus là, Holmes va se lancer dans son ultime enquête, la plus compliquée de sa longue carrière.
C'est très triste.
Bah, ça passe encore. C'est un très beau film, je vais vous dire pourquoi. Donc le pitch s'annonce tout à fait palpitant, j'ai envie de dire, quand même une enquête, une nouvelle enquête qui s'ouvre, enfin une nouvelle ancienne enquête qui s'ouvre. Donc on peut s'attendre encore avec de l'action et des cascades comme les autres Holmes, mais pour le coup, ce n'est pas le cas. Ici, nous nous retrouvons face à une quête de la mémoire de la part de Holmes. Eh bien oui, il n'est plus tout à fait jeune, hein, comme il a été dit, et cherche désespérément à réécrire une des histoires de Watson, puisque celle-ci est fausse. Il y a d'énormes erreurs, mais l'on comprendra que ce n'est pas sans raison que Watson ne dit pas toute la vérité dans cette histoire. Donc enfin bref, nous suivons donc un personnage de Sherlock, vieux, pas très agréable à vivre pour sa gouvernante, ne pensant qu'à son enquête, et surtout à ne pas montrer qu'il perd la tête. Mais un petit personnage sera là pour l'aider, le petit Roger, qui lit ses écrits et veut à tout prix savoir la fin de l'histoire. Donc ce personnage devient en quelque sorte un mini Watson, prêt à tout pour finir l'enquête, comme quoi Holmes ne peut pas travailler seul. Parce que Roger, c'est un personnage essentiel à Holmes, il aide à tenir en fait au corps dans cette idée de réalité avec sa gouvernante, parce que s'il était que dans son histoire, il serait tout le temps dans son enquête, il se focaliserait pas sur son monde autour, et en fait il crèverait facilement. Sa gouvernante est là pour l'aider, à lui donner ses médicaments, à vraiment le soutenir.
Il y a un trouble du comportement en fait.
Bah, en fait, un peu ça, vu qu'il perd la mémoire assez facilement, je veux dire, il a tout le temps cette technique d'écrire le nom des personnes qu'il rencontre sur sa manche. S'il faisait pas ça, en fait, il se souviendrait même pas de qui est Roger.
Ça doit être pratique quand on est enquêteur.
Il y a un côté memento.
Bah c'est un peu ça en fait, presque. On recompose l'histoire au fur et à mesure en fait. C'est exactement ça. On voit à chaque fois des flashbacks qui nous ramènent à l'enquête. Donc on se demande si des éléments sont vrais, mais en fait au final, avec sa mémoire, les flashbacks se reconstituent petit à petit et c'est ça qui est vachement intéressant. Donc à mon goût, ce film est un film magnifique sur la beauté humaine. Au final, on se fiche un peu de l'enquête, il ne s'agit pour moi que d'un prétexte à l'histoire. Dans ce film, on parle à la rencontre du personnage d'Holmes, on le voit évoluer au fur et à mesure du film grâce à Roger. La relation entre les deux n'étant pas très bien partie, et pourtant il se lie un contact entre les deux comme un grand-père et son petit-fils. Ce qui est tout à fait adorable étant donné que Roger a perdu son père pendant la Grande Guerre. Parce que je vous rappelle que tout le film se passe en 1947.
Ah ouais.
Donc son père était aviateur, voilà quoi, vous comprenez le truc. Et donc du coup en fait Roger recherche vraiment un nouveau père dans le visage d'Holmes qui n'est pas du tout réceptif au début quoi, il envoie chier un peu.
Dans quelle partie du visage il le recherche son père ?
Le nez je crois. Enfin voilà, Roger tombe un jour sur les écrits de Holmes, Holmes le remarque et il va lui demander en fait de l'aide par rapport à qu'est-ce qui aurait pu se passer à ce moment-là. En fait, Roger, même s'il ne faisait pas partie au début de l'histoire, il l'aide à reconstituer quand même des éléments de l'histoire, ce qui est vachement intéressant. Donc Holmes est un film lent qui prend le temps de se mettre en place, nous partons dans l'inconnu, donc comme je vous le disais, tout comme le grand personnage que l'on suit, on découvre des petits secrets sur lui que je ne vous révélerai pas, bien sûr. On est face à une quête de la mémoire, une quête d'une relation forte, tout cela dans des paysages magnifiques entrecoupés de flashbacks, comme je vous le disais, qui se recomposent petit à petit, tel un memento. Donc c'est un magnifique film à voir en VO, bien entendu, qui fait du bien en prenant une pause avec tous les films d'action et de violence qui sortent en ce moment, où l'on prend le temps de se régaler de l'image. Ainsi, je vous invite fortement à le voir. En tout cas, moi, j'y retournerai bien, tellement ça, je me suis régalé. Et si vous ne souhaitez pas le voir, vous pouvez au moins lire le livre dont il est l'adaptation, Les abeilles de Monsieur Holmes, de Mitkelin, publié en 2005. Donc oui, c'est quand même un livre récent, mais qui est vachement intéressant. Déjà, on apprend aussi la différence entre les abeilles et les guêpes. C'est un petit élément.
Je suppose que c'était un best-seller sympa. Pour qu'il l'adapte.
Bah, je suis même pas sûr, parce que j'en ai jamais entendu parler de ce bouquin.
Moi non plus, mais bon, c'est-on jamais en Angleterre.
Bah oui, il faut voir... Parce que c'est vraiment...
Bon, moi, je l'ai lu 40 fois, là. Bah, attends.
Parce que je me rappelle pas avoir vu, en fait, vraiment un bouquin sur la fin de carrière de Sherlock Holmes. Donc là, en fait, ça signe vraiment le truc et c'est vachement intéressant.
Enfin, il y a quand même pas mal de bouquins sur ces héros. Ouais. Par exemple, les James Bond, il y en a beaucoup de nouveaux en ce moment.
Bah, ils en ressortent plusieurs. Ouais. Bah, Sherlock Holmes, ils en ressortent plus en même temps.
Ils ont annoncé un troisième. Enfin, le troisième
de livre.
Ouais, non, on parle de livre.
Ah, de livre.
Oui.
Je pense de livre, on en sort sur les films.
Enfin, okay. En même temps, ça serait. Enfin, on perdrait la patte, je pense, déjà, de l'auteur original. Donc voilà. Je vous conseille fortement d'aller le voir, c'est un film super, même si faut pas s'attendre vraiment à voir de l'action, comme je vous l'ai dit, hein. faut savoir profiter, il dure à peu près 2h, 2h30 je pense, mais il est vachement beau à voir. Quoi. Donc voilà, je vous laisse sur ce film, avec la magnifique musique de film signée Carter Burwell.
Ah oui, oui. Compositeur des frères Cohen.
Tout à fait.
Nous revoilà les décadrés, donc émission de cinéma sur PFM 99.9, émission de cinéma audiovisuel.
On voit que ça t'a mis dans l'ambiance.
Ouais, ça m'a égayé. Donc on va enchaîner avec Antoine qui va nous parler d'un film indépendant, donc la vie de David L. que j'ai trouvé à Cannes.
Voilà, La vie rêvée,
de David L.
Ce qui a été sorti en 2014 et qui est le premier long métrage...
Production 2015.
Ouais, production 2015, oui. Qui est le premier long métrage de jeunes réalisateurs
qui ont un certain âge déjà,
mais qui sont à leur premier long métrage, donc Paul Lé et Julien Pichard. Alors il faut savoir qu'ils ont aussi co-écrit le scénario mais également coproduit le film. Alors le film semble rencontrer un certain succès puisqu'il obtient plusieurs prix lors de différents festivals, prix du jury à Los Angeles au festival Cinema at the Edge, prix du meilleur film étranger au Bare Bones Film Festival ou encore prix du meilleur film tout simplement au Festival Vif. Mais là, vous vous dites, ouais, bon, c'est bon, on a chopé le palmarès du truc. Bon, La vie rêvée de David L, ça parle de quoi? C'est quoi l'histoire? Et puis, c'est qui ce David? Mais avant de vous parler du personnage de David, moi, il me semble important de vous présenter... l'autre David. Oui, parce que l'autre David, en fait, il s'agit ni plus ni moins que d'un personnage réellement vraie. Cette phrase ne veut absolument rien. Absolument.
Non, mais oui,
c'est comme si je disais que cette phrase parlait d'elle-même. Tu vois, ça ne veut rien dire du tout. C'est... ça ne veut absolument rien dire. Non, en fait, le personnage de David est, est basé sur le personnage, enfin, sur la personne de David Lynch.
Sur sa personne et ses composi-, enfin, ses créations.
Et ses créations.
Filmiques, notamment.
Voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas David Lynch, alors il s'agit d'un véritable artiste aux multifacettes. Je pense que Benjamin est d'accord avec moi.
Cinéaste, peintre.
Voilà, réalisateur, producteur, compositeur, monteur, cadreur, décorateur, acteur, bref, j'en passe parce que la liste en heures est vraiment, vraiment longue. Alors, par exemple, on lui doit de nombreux films comme Elephant Man, sorti en 80,
la série Twin Peaks.
La série Twin Peaks, sortie en 90, qui nous vient bientôt nous revenir pour une troisième saison.
Ouais, l'année prochaine.
L'année prochaine. Lost Highway en 97, ou encore, bon, c'est mon préféré de ce film, c'est Mulholland Drive, qui est sorti en 2001.
Incroyable.
Alors, cependant, même si l'univers du film reprend les ambiances oniriques et cauchemardesques des œuvres de Lynch, l'histoire, quant à elle, met en place une fiction basée sur un moment clé de la vie du réalisateur. Plus précisément, lors de ses études aux Beaux-Arts, donc en gros, une adaptation fictive d'une partie de la jeunesse de David Lynch. Parce que ça se passe en France, c'est très contemporain, enfin je veux dire, ça se passe en 2014.
Oui, c'est très récent, c'est contemporain, ça se passe en France, comme tu l'as bien dit.
Voilà. Les acteurs boivent de la bière Henken, d'ailleurs.
Le gars ne s'appelle pas David Lynch.
Et non, voilà. Le gars ne s'appelle pas. D'ailleurs, le personnage n'est jamais appelé Lynch, il est toujours appelé David.
David, on dit jamais David L, d'ailleurs.
On dit jamais David L. Ben, j'ai pas souvenir que son nom soit énoncé à un moment, mais il me semble pas. Alors, cela dit, je tiens à rassurer nos chers auditeurs, si vous n'êtes pas vraiment au point sur la biographie de Lynch ou sur ses œuvres, eh bien, c'est pas trop grave, puisque le film se concentre essentiellement sur les personnages présents dans l'intrigue et interroge avec justesse la question de l'image, notamment l'image que l'on renvoie au sein d'un groupe de personnes. Et le film nous dresse alors le portrait d'un personnage en quête de son identité propre, mais aussi de son identité d'artiste. On est vraiment dans une... Il y a une évolution du personnage entre le début du film, le David du début du film, le David du milieu et le David de la fin. Il y a une véritable évolution... ne serait-ce que dans le jeu de l'acteur déjà, qui est beaucoup plus sombre, beaucoup plus terne au fur et à mesure, et également dans le scénario, puisque le personnage vire dans une espèce de folie identitaire. Il ne sait plus où, à qui il doit se fier, il ne sait plus à qui il s'adresse, et ça va dénoncer également par là tous les travers et la face cachée de la vie d'artiste, entre guillemets. Enfin, ça critique un peu le système justement des écoles des Beaux-Arts, ça critique un peu...
Le système scolaire artistique.
Voilà, exactement. Le système scolaire artistique.
La jeunesse,
ouais, un peu... l'idée d'une jeunesse assez dépravée quand même dans ces milieux artistiques, et c'est quelque chose qui est vraiment... pointé du doigt et qui est très présent et qui va justement influer sur les ambiances du film avec des couleurs chaudes, des scènes parfois un peu hautes, bon, des scènes de sexe carrément. Mais cela dit, il n'y a rien de choquant. Ça permet justement de nous mettre dans une ambiance. Et pour ça, le film est très bon. C'est-à-dire qu'avec son imagerie, avec son jeu d'acteur et sa mise en scène, il arrive quand même à nous happer vers l'écran.
C'est très érotique.
C'est très très
érotique.
Ça
marche très bien.
Ah oui, c'est très 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 érotique. Alors, pour moi, justement sur la quête de l'identité propre et l'identité d'artiste, pour moi, c'est un parti pris qui a été parfaitement assimilé par certains des acteurs, notamment par l'acteur principal, justement, qui joue David, qui, justement, comme je disais tout à l'heure, évolue considérablement au fur et à mesure dans le jeu. Mais le problème, c'est vrai qu'il faut reconnaître qu'on ne peut pas s'empêcher de constater énormément de petites maladresses dans le jeu de certains acteurs. Pas de tous. Hein. Après, l'avantage, c'est que
il y a un côté film choral, du coup, il y a beaucoup de personnages.
Ça. Après, ça n'atterre pas non plus
la qualité
du film, mais les maladresses, elles sont vraiment présentes et on va toujours à un moment avoir un tic et se dire « Ah, là, il y a un truc qui déconne un petit peu. » Et la réalisation aussi. Enfin, parce que la réalisation, il y a énormément de qualités, mais aussi quelques petits défauts.
Absolument.
Alors, la réalisation. Si tout à l'heure, chers auditeurs, je vous avais précisé que justement, il n'était pas nécessaire de connaître les œuvres de Lynch pour comprendre l'histoire du film, pour moi, il est quand même nécessaire de s'y intéresser si l'on veut comprendre la mise en scène, comprendre le montage et la réalisation du film.
Parce que c'est beaucoup d'hommages, c'est énormément de citations.
Et non, mais ouais, c'est ça, c'est énormément de références, énormément de citations. D'ailleurs, c'est justement pour ça, si... vous connaissez bien l'œuvre de Lynch, que vous n'avez pas vu le film, je pense que vous allez passer un bon 1h30 à dénicher les petites références.
Ouais, il y a un côté très plaisant.
Il y a un côté très présent.
Un fan play, on peut dire.
C'est ça. Et au fur et à mesure du film, le personnage de David donc s'enfonce inconsciemment dans sa crise identitaire, et tandis que l'univers onirique de Lynch, enfin l'univers lynchien, laisse surgir les fantasmes de celui-ci, donc fantasme d'artiste, le fait d'être vouloir être exposé, fantasme d'homme avec les corps, les relations sexuelles qu'il y a entre sa copine,
oui,
et d'autres gars, et aussi un peu le fantasme du jeune étudiant qui va recevoir l'approbation de ses professeurs et qui va être considéré un peu comme un maître. Et à la manière des films de Lynch, l'étrange, la réalité et le surnaturel viennent cohabiter à l'écran grâce au montage et à la réalisation. Donc si vous voulez capter toutes les subtilités du film, moi je vous conseille tout de même de regarder quelques films de David Lynch.
Ouais,
ça vous comme
je
ça,
le conseille.
Moi je le conseille vivement. Pour l'histoire, c'est clair que vous n'en aurez pas forcément besoin, mais si vous voulez saisir la subtilité de l'œuvre, je vous conseille quand même... de vous y mettre. Benjamin, je voulais justement te poser une question parce que tu as vu le film, on a un tout petit peu de temps. Qu'est-ce que tu as pensé au niveau des couleurs dans le film ?
Ah oui, il y a un vrai travail des couleurs. En même temps, on reprend les couleurs de David Lynch, que ce soit du rouge.
Ouais.
Enfin, forcément, la pièce rouge, on pense tout de suite à Twin Peaks.
Mais c'est aussi des couleurs très. Et ça peut être aussi des couleurs très ternes, très froides.
Ouais, exactement, un peu grisâtre. Mais en même temps, il y a un vrai travail de. D'étalonnage, et même parfois la lumière elle est beaucoup plus adoucie, les formes sont plus adoucies, c'est très étrange.
C'est très aussi, enfin ça se remarque beaucoup aussi au passage de fin, justement, quand il avec l'écran de projection, c'est un très très beau passage. Enfin, j'en dis pas plus, vous verrez si vous regardez le film. Et de plus, mes chers auditeurs, je vous invite également à prendre connaissance d'une interview de l'un des réalisateurs, donc ici Paul Lay, qui a été interrogé par notre cher Courtois et notre beau Benjamin pour l'édition Ciné-Série Mag.
Ça peut être intéressant, sur cinéseriemag.fr.
Voilà, donc ça peut vous donner quelques pistes. Et on va vous laisser avec une petite chanson du film qui s'appelle comment, mon cher ange ?
J'ai un très mauvais accent anglais, donc The O'Thief. Si c'est ça. Ça c'est l'auteur, et sinon c'est Peanut Butter Oven.
Et ben voilà.
On avec va mon bel accent anglais.
Donc une des musiques du film, c'est parti.
I'm
Vous êtes toujours sur les décadrés 99.9. Ça va toujours, les gars ?
Oui.
Ça va. Alors, Benjamin, tu m'as demandé de t'introduire. Donc, c'est ce que je vais faire, Benjamin. Je vais t'introduire. et introduire également nos chers auditeurs sur justement, enfin, pas qu'un film, sur la musique d'un film. Enfin, sur un compositeur précisément, donc, et c'est Alien.
Oui, enfin, le compositeur n'est pas Alien.
Non, non, le compositeur n'est pas Alien.
Je vais causer d'un compositeur de cinéma aujourd'hui, donc qui est Jerry Goldsmith, précisément d'une de ses bandes-sons. Mais d'abord, Goldsmith. À ce simple nom, vos oreilles doivent frétiller. Patton, la canonnière du Yangtze, la planète des singes, Star Trek le film, Basic Instinct, Total Recall. Bientôt au cinéma Ovida, jeudi prochain. Des titres,
le titre
qui vous rendent impatient à l'idée d'entendre l'une de ces BO. BO que vous n'entendrez pas, car j'en ai choisi une qui n'est pas citée, du moins pas encore, la bande-son d'Alien. Ah, cri ! Autant de réactions que vous devriez avoir à la simple citation de ce titre. Alien, nom d'un alien, le 8e passager, et quelle bande-son ! Le film, en quelques mots, il est réalisé par Ridley Scott en 79, donc papa de Gladiator Crow et des Warrior Girls que sont Ripley, Thelma et Louise, écrit par Dan O'Bannon, Dark Star et Walter Hill, papa des Warriors. À la sortie du film, donc à sa sortie, le film va déchaîner les foules et les critiques, les théoriciens du complot et les aliénés des aliens et des robots. Attention, Albibac n'est pas loin. Jerry Goldsmith signe la BO, on saigne un peu. Parce qu'il n'est pas le premier choix du réalisateur britannique, ni le choix tout court. Les studios l'imposent contre celui du réalisateur, donc qui était Isao Tomita, assez expérimental, qui touche au synthétiseur électro. Donc sécurité avant tout, dans l'espace, on ne veut pas entendre des spectateurs mécontents. Ridley Scott, reprend un titre d'une des précédentes compositions de Jerry, tiré de la bande-son de Freud. Il écarte avec le monteur une énorme partie de la bande-son du compositeur. Il utilise la deuxième symphonie romantique d'Howard Hanson à la toute fin du film et un extrait de Bartok pour la disparition de Dallas. La bande-son du film paraît ainsi minimaliste et c'est tant mieux. Bah oui, il s'agit d'un pur travail de son, de jeu sur le silence, l'angoisse, le vide, la fragilité de l'équipage du Nostromo, donc, qui est le vaisseau spatial, hein, et la bande-son originale va justement appuyer et réfléchir ce travail. Le thème principal que vous entendez en ce moment, sur lequel apparaît à l'écran le titre en bâtonnet, vous en rappelez, 7 bâtonnets pour 7 futures victimes, sur fond d'espace de vide, appuie la fragilité de l'homme dans un espace supposément conquis. Cons ! Qui vont donc découvrir l'anti-humain. Le monstre parfait et aussi l'évolution humaine parfaite d'Ixit H, l'androïde de l'histoire. D'ailleurs, sur la bande musicale, les monteurs son ont ajouté un son étrange de résonance qui appuie ce vide et l'angoisse de l'espace. Si elle est minimaliste, il n'empêche pas qu'elle soit épique et brillamment symphonique à certains moments. L'atterrissage, par exemple, est épique et en même temps extrêmement mystérieux. Il y a aussi quelque chose de très mélancolique dans la bande-son. Donc celle-ci ne participe pas juste à la dimension opératique du film, parce qu'il c'est un space opéra, n'oublions pas. Au début du film, dans le Nostromo, elle participe notamment à mettre en place l'étrange ambiance du vaisseau. Donc la musique peut être à la fois les sons des machines ou le son du réveil du Nostromo, qui est donc le vaisseau, mais qui est en même temps une véritable entité mécano-organique. Donc au final, Goldsmith, dégoûté, va jusqu'à renier son œuvre, mais pas l'argent qui s'en dégage. Hé, compo pas con quand même. Donc en avant la musique. Et je vous laisse avec le thème de l'atterrissage de landing, mais juste avant les gens... Ah, on vous dit au revoir.
Oui, au revoir, c'est la fin de l'émission.
Voilà, donc on vous aime et on vous souhaite un joyeux atterrissage aujourd'hui.
Voilà, et on vous donnera rendez-vous bientôt pour une nouvelle émission
décadrée.
Voilà, la semaine prochaine, 99.9 sur PFM.
Voilà,
à bientôt.
Salut à tous.
Salut.